Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bienvenue dans 90 minutes info. Le débat commence juste après le flash signé Adrien Spiteri aujourd'hui. Bonjour Adrien.
Bonjour Nelly. Charles III succède à sa mère à l'âge de 73 ans. Il devrait être couronné demain. Il s'agit du souverain le plus âgé à accéder au trône. Cela faisait 69 ans qu'il était numéro 1 dans l'ordre de succession. Nous sommes tous dévastés, ce sont les mots de Liz Truss après le décès d'Elisabeth II à l'âge de 96 ans ce jeudi. La première ministre s'est adressée aux Britanniques hier soir. Partout dans le monde, les hommages à la reine se multiplient. Et puis, réunion de crise aujourd'hui pour les ministres de l'énergie européens. À Bruxelles, ce sommet extraordinaire doit permettre la mise en place de nouvelles mesures pour faire face à la crise énergétique. Ils vont tenter de se mettre d'accord pour enrayer l'envolée des prix du gaz et de l'électricité.
Merci et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'info. La Grande-Bretagne, bien sûr, nous y serons dans quelques minutes. La Grande-Bretagne qui pleure sa reine disparue. Et puis, c'était sans doute l'image du jour. Charles III, c'est lui, c'est comme ça que désormais qu'il faut l'appeler, hein, Charles. Il sera sacré et non couronné. Hein. Il y a une petite différence quand même. Mais
non, il sera seulement proclamé.
Il sera proclamé, voilà. Mais il faudra attendre absolument quelques semaines.
Quelques mois.
On va parler avant cela d'un match qui a dégénéré, encore un. Ça s'est passé à Nice hier. 8000 supporters de Cologne avaient fait le déplacement, parmi eux un certain nombre d'ultras, comme on les appelle. Et déjà, à la mi-journée, on a observé des dégradations dans la ville, tandis que là, ce sont les images de la soirée dans les gradins. Vous voyez ces images où les stadiers, eux aussi, ont été obligés d'en venir aux mains pour tenter de calmer les énergumènes qui étaient venus en découdre, visiblement. Alors, il y a beaucoup de questions, évidemment, qui entourent l'événement. On va regarder peut-être le tweet de Christian Estrosi sur les dégâts occasionnés dans sa ville, puisque déjà un certain nombre d'individus étaient, on va le dire, imbibés à l'alcool après quelques heures de consommation dans les rues de Nice. « Je déplore, dit-il, les comportements incivique et scandaleux des supporters du FC Cologne et le non-respect de la ville qui les accueille de manière généreuse et fraternelle », souligne-t-il. « Nous adresserons les factures liées aux dégradations et au nettoyage des espaces publics au club de Cologne ». On verra d'ailleurs quelle responsabilité imputée à ce club tout à l'heure. Sandra Buisson est avec nous. Bonjour Sandra. Bonjour. C'est vers vous que je vais me tourner dans quelques instants. Jean Garrigue également, merci. Bonsoir. De nous accompagner cet après-midi. Bonsoir, enfin, même si la lumière plateau est un petit peu
bon après-midi.
Nocturne. Voilà, on est au cœur de l'après-midi. Marc Menant,
oui.
Merci d'être là. Vous nous avez été précieux déjà pour commenter cette actualité dense en Grande-Bretagne. À vos côtés, Philippe Delorme, qui est historien. Merci d'être resté également. Alors, que s'est-il passé à nouveau, justement, que s'est-il passé hier lors de ce match pour le compte de la Ligue des Champions, Sandra?
Alors, tout s'est passé avant le match et ça a commencé dès l'après-midi, vous l'avez dit, puisque c'était, selon les termes employés par le préfet, déjà le Bronx. Les supporters allemands étaient environ 6000, massés, donc place Masséna. Ils ont décidé de se diriger à pied vers le stade alors que la préfecture avait interdit ce qu'on appelle la fan walk. À ce moment-là, le préfet dit qu'il a dépêché des forces de l'ordre pour éviter qu'il n'y ait trop de dégradation. En chemin, les supporters allemands ont tagué les stations de tramway. Il y a eu des vols d'alcool dans des petits commerces. Ils ont dégradé la boutique du club de l'OGC Nice et tout ça sur fond d'importantes alcoolisations. Vous l'avez dit, face à ça, le préfet dit cet après-midi que dans la journée, déjà, il a monté son dispositif de sécurisation de 450 à 600 effectifs. Les Allemands sont arrivés près du stade vers 17h30, en même temps que les supporters de Nice. Là, il y a eu plusieurs rixes. On est encore à l'extérieur du stade. Mm-hmm. Puis, du côté des Allemands, des passages en force au contrôle d'accès du stade. C'est ce que précise le club de Nice. Et enfin, vers 18h, les images que nous voyons à l'instant, dans le stade, parmi les 8000 supporters de Cologne annoncés, 350 hooligans se sont déchaînés, selon le décompte du préfet qui parle de hordes sauvages, je cite ses propos. Ils sont sortis de leur tribune pour aller tenter de s'en prendre aux supporters de Nice à coups de bouteilles, de chaises, de barres de fer qu'ils ont trouvées sur place. Ces violences ont provoqué le report du coup d'envoi d'une heure et la situation était revenue sous contrôle à environ 18h30 grâce à l'intervention des forces mobiles à l'intérieur du stade.
Et alors le bilan au sortir de ce match compliqué?
Alors le bilan est toujours celui donné par la préfecture hier, 32 blessés, majoritairement blessés dans les rixes à l'extérieur du stade, donc avant le match. Dans le stade, il y a ce supporter parisien qui a fait une chute de 5 mètres du haut de la tribune. Il était hier en urgence absolue. Aujourd'hui, son pronostic vital n'est plus engagé. Cet homme, il faut préciser qu'il était entré avec les Allemands, avec plusieurs ultras parisiens, des ex-supra du virage Auteuil. Des journalistes de l'AFP ont d'ailleurs constaté dans la tribune des supporters de Cologne une banderole supra Auteuil PSG. Ça laisse penser à certains observateurs que ces individus parisiens ont pu participer aux violences aux côtés des hooligans allemands.
Restez avec nous, on va faire un petit tour de plateau pour les réactions et puis on en viendra peut-être au manque, au dysfonctionnement, malgré, hein, vous l'avez rappelé, l'affichage des effectifs par le préfet lui-même, c'est-à-dire 650 hommes, en soi, ça paraît important, hein, comme dispositif pour sécuriser les lieux, mais on verra si les choses auraient pu être affinées, améliorées, et notamment dans la communication d'informations. Marc, première réaction peut-être.
C'est étonnant, moi, on ne peut être que dépité. Malheureusement, ça fait 25 ans que ça existe. Il y a eu les hooligans, c'était ces déferlements en Angleterre. On a réussi à juguler le phénomène. Il y a eu en Allemagne, ça s'est calmé un peu. Il y avait au Parc des Princes, où toutes les semaines, on était dans cette barbarie. Et puis là encore, on semblait être dans l'apaisement. Alors, que dire par rapport à ça? Comment pourrait... Qu'est-ce qui fait que, alors qu'on a le sentiment qu'on maîtrise presque cette situation de violence extrême, qu'elle est amoindrie et que soudain, il y a à nouveau ces surgissements. Ça, c'est le premier point. Bon, les questions sont multiples. Et comment éviter ça? La responsabilité des clubs, sans doute. Ces gens, ils sont repérés, ils ont souvent des abonnements. Quand ils prennent leurs billets, bien, il faudrait au minimum essayer d'avoir un contact avec eux et les rappeler à certains devoirs. Et puis après, arrivons à la partie policière. On a quand même 600 membres de forces de l'ordre qui font face à 350 individus, je vous ai bien écouté.
Alors, les 650 n'étaient pas tous dans le stade au moment des faits. Il y avait eu 650 effectifs mobilisés pour toute la journée. Donc effectivement, ça a monté crescendo. Et au début, les forces de l'ordre, vous savez, elles ne sont pas dans le stade.
Non, mais j'ai bien compris. Du
stade, voilà. Donc ils sont arrivés ensuite. Et c'est pour ça qu'entre 18h, la situation a été...
Mais Sandra, vous nous avez dit
Marc,
que...
Vous parlez d'un rapport numérique, en fait.
Oui, mais un rapport numérique. C'est-à-dire que, si j'ai bien suivi votre propos, il était très clair, les incidents, ce sont... Quand je dis incidents, arrêtons les euphémismes. Ces violences, ces tordureries, cette barbarie, c'est déployé avant tout en ville. On pourrait imaginer, à ce moment-là, que l'on place un cordon de police, de telle sorte que ces individus ne puissent pas pénétrer dans le lieu. Il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas, là.
Vous avez parlé des dysfonctionnements. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné hier par rapport à ce que vous demande, Marc?
Plusieurs questions se posent. On attend effectivement une interview du préfet d'ici quelques instants au micro de CNews. La première question qui se pose, c'est est-ce que dans les réunions préparatoires, parce qu'il y en a quand un match est jugé à risque, est-ce que le nombre d'ultras allemands a été bien anticipé? Le préfet pointe, lui, de son côté, du doigt les dirigeants du club de Cologne qui, selon lui, n'ont pas su tenir leurs troupes. Il estime aussi que les stadiers, alors ça c'est le club de l'OGC Nice qui décide combien de stadiers il met, les stadiers qui étaient 600, il estime, le préfet, qu'ils ont été débordés et surpris. Alors est-ce qu'ils étaient trop peu nombreux? Est-ce que les fouilles ont été correctement menées? Est-ce que le dispositif policier était suffisant avec ces 650 membres des forces de l'ordre? Pour l'instant, il faut souligner qu'il n'y a aucune interpellation des fauteurs de troubles. Le procureur nous a précisé que 3 enquêtes sont ouvertes pour les violences et dégradations commises à l'extérieur du stade et celle à l'intérieur de l'Alliance.
Oui, alors vous nous dites, il n'y a pas d'interpellation aux fauteurs de troubles. Il se trouve que ce sont des ultras allemands qui sont rentrés chez eux entre-temps. Donc
en fait,
maintenant,
il y a le relais aussi avec les vidéos allemande. D'identifier chacune oui. des personnes.
Et on peut donc entrer dans un stade, avoir ces comportements immondes et en ressortir alors qu'il y a des forces...
La justice va passer.
Non, mais il n'y a pas d'interpellation.
On va laisser la parole à Jean Garrigue. Jean Garrigue, c'est vrai qu'on... On se dit comment des individus qui ont commis de tels méfaits arrivent à s'en sortir, à peut-être rejoindre leur localité, à redevenir, pour certains, sans doute des bons pères de famille un peu cachés. Hein, parce que ce sont souvent des gens qui ont une sorte de dédoublement de la personnalité, en fait, les soirs de match.
Comme l'a dit Marc, c'est pas un fait nouveau, le hooliganisme. Ça a commencé en Grande-Bretagne il y a 25 ans, et ils ont trouvé des solutions. Et notamment des solutions par ce qu'il faut bien appeler la sanction, la répression. Alors non seulement déploiement de forces de police... mais aussi, et puis peut-être meilleure formation des stadiers, parce qu'il y a un vrai problème de formation des stadiers un peu partout en France. Mais la question de la sanction, de la répression, c'est-à-dire la suppression de l'accès au stade pour les types qui sont comme ça repérés. Parce qu'il y a des caméras quand même, on peut repérer, c'est facile. Ça avait été fait au stade au Parc des Princes aussi. Donc si vous voulez... On peut trouver des solutions. Il ne faut pas désespérer parce qu'on peut trouver des solutions, mais ça veut dire une volonté politique. Ça veut dire une volonté des forces de l'ordre de faire leur travail, ou plutôt des ordres qui leur sont donnés pour faire le boulot. Et ça veut dire ensuite des sanctions pénales. Des sanctions pénales oui. qui soient aussi bien d'ailleurs du registre des clubs que du registre de la justice.
Ça a déjà été fait. Il y a des clubs qui ont été sanctionnés pour les agissements
de la justice. Mais on ne va pas assez loin. Pour les clubs, quelquefois, on va... peut-être trop loin, mais on ne va pas assez loin pour sanctionner D'accord. les individus. Mais je voulais juste dire quelque chose. C'est quand même, malgré tout, le symptôme, parce que le fond de sauce de tout ça, c'est le symptôme, un énième symptôme d'un ensauvagement de la société, d'une incivilité, pas seulement de la société française, d'ailleurs, de toutes les sociétés démocratiques, puisqu'en l'occurrence, ce sont des hooligans allemands, même s'il y avait quelques ultras du PSG. Et c'est ça qui nous questionne aussi. C'est comment est-ce qu'on en est arrivé là, dans une société où des types comme ça vont dans des stades pour se taper dessus ?
Philippe Delorme, alors je sais que vous, votre dada, c'est plutôt l'histoire de la couronne, oui, et c'est oui. bien sûr à cet égard qu'on vous a invité. Néanmoins, vous êtes historien, vous avez sans doute un peu de recul aussi sur le cas britannique en matière de hooliganisme.
Je précise juste que je suis historien aussi, hein, cher Nelly.
Oui, non, mais c'est parce que vous... Alors,
et Marc aussi. Oh, moi, je ne suis pas grand-chose, mais c'est pas grave.
Enfin, on est trois historiens sur le plateau.
Non, mais moi, je suis plutôt un curieux
attendez,
professionnel.
Attendez,
moi, je ne revendique rien.
Non, attendez, je vais vous expliquer. Oui. Déjà, vous êtes là tous les jours, donc je ne vous présente même plus Jean Garrigue.
Ah bah, c'est pas gentil. Hein.
Non, moi, je ne revendique rien, moi.
Voilà. Et donc, bon. Je me tourne vers Philippe Delorme parce qu'il se trouve que c'est la première fois que j'invite sur
ce Non, mais bien sûr, mais je suis ravi.
Vous voulez juste dire qu'il était là pour commenter le pauvre, l'actualité de la reine. On lui colle des supporters niçois. Alors, allez-y, je vous en prie.
Et c'est vrai que si vous me demandez un avis d'historien, c'est vrai que dans l'histoire, on se rend compte que la sauvagerie est toujours... Enfin, que quand on gratte un tout petit peu le vernis de l'homme, on retombe sur le sauvage, on retombe sur la bête. Et c'est très, très facile, surtout en groupe. Hein, lorsque des groupes en plus l'alcool, enfin, etc. Alors, effectivement, moi, je connais pas bien le dossier, mais je comprends pas très bien qu'on puisse se balader dans les rues de Nice en cassant tout et en ne se faisant pas arrêter. Voilà. Déjà, première chose, avant d'aller au stade, déjà, on aurait arrêté. Quand c'était des gilets jaunes bien, bien tranquilles qui défilaient à Paris, on leur cassait la gueule de manière un peu plus violente.
Donc, pas toujours bien tranquilles. Enfin, toujours, vous avez raison, au départ, oui.
Certains l'étaient quand même. Hein.
Oui. Sandra Buisson, une petite question sur la communication avec les autorités allemandes. C'est très important parce qu'on n'arrête pas de parler de la police française, des forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a eu peut-être des manquements, des signalements qui auraient dû intervenir et qui n'ont pas été faits ?
Alors, des manquements, ça, il faudra voir si effectivement des investigations sont menées des deux côtés pour voir comment a été préparé ce match. Ce qu'on sait, c'est que normalement, sur les matchs très à risque, les forces de l'ordre allemandes sont en lien avec les forces de l'ordre françaises. La sécurité du club allemand est en lien avec la sécurité du club français. Il y a une réunion la veille, il y a une réunion le matin. Effectivement, normalement, les forces allemandes ont dû faire savoir aux Français combien d'ultras étaient susceptibles de venir, combien il y avait de supporters qui étaient susceptibles de venir et combien, dans ce lot des 8000, combien il y avait d'ultras. Ça, pour l'instant, on n'a pas l'information de savoir s'ils avaient été justement évalués ou pas.
D'accord. Bon, on va y revenir tout à l'heure. On a encore un petit peu de temps à y consacrer. On parlera aussi de la sécurité à Lyon. Et là, on tease un peu l'interview de Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui interviendra autour de 16h30. Parce que vous le savez, Gérald Darmanin a fait une visite surprise à la Guillotière ce matin. Et puis, il s'est entretenu, surtout avec le premier élu. On sait qu'entre ces deux-là, ça n'a pas toujours été chose facile. Mais évidemment, revenons à l'actualité qui nous occupe depuis... environ 14h ou 14h30 hier. Hein.
Depuis hier.
Les Britanniques qui s'y étaient préparés forcément, mais la mort de la reine Elisabeth II a comme figé tout un peuple, et je dirais même bien au-delà, tout un monde, à savoir le Commonwealth, mais pas seulement, largement au-delà des frontières du Commonwealth, une bonne partie de la planète qui était un petit peu incrédule, toujours aujourd'hui face à cette disparition. Marc Menon, on a l'impression que le temps est comme suspendu. Là, on se prépare à la parade de la couronne, les funérailles en bonne et due forme. Et puis en parallèle, il va y avoir cette proclamation d'un nouveau souverain. Enfin, je veux dire, ce sont deux histoires parallèles qui se télescopent, la disparition et l'avènement d'un autre.
Là, vous avez raison, mais là, on est dans une continuité néanmoins. Et ce qui est intéressant, c'est cette nécessité de la continuité. Pourquoi cette royauté britannique touche autant d'individus à travers la planète? Pourquoi nous-mêmes, nous nous projetons en les regardant alors que nous avons, à un moment donné, éliminé ceux qui étaient les représentants de Dieu sur Terre? Parce que c'est ça aussi. C'est oui. Ça. Donc, on est dans un monde, et peut-être qu'on pourrait relier les drames que l'on vient d'évoquer avec Sandra, ces drames sociaux, avec un monde en perdition. Et dans ce monde en perdition, il y a quelque chose qui est fascinant, qui a échappé aux fractures du temps, qui a échappé à tous les séismes qui font que l'être humain est blackboulé, telle la boule de billard, qu'il passe d'un drame à l'autre et qui se dit comment en réchapper. Et là, il y a la continuité d'une royauté, avec une femme qui a émergé dans le drame absolu, puisque c'était l'Allemagne qui voulait nous imposer le système le plus nauséabond. Et elle a incarné cette capacité à se défaire du démon. Alors ça donne des forces quand on ne va pas très bien. Car que faisait-on à l'époque où on manquait de rationalité? On en s'en référait au Tout-Puissant. Il y avait les processions pour lutter contre telle famine, pour lutter contre telle épidémie. Et là, il y a cette résurgence, je disais, d'un élément indicible sur lequel on peut s'accrocher en se disant « tout n'est pas foutu ». On peut croire encore à un avenir, même si on est accaparé par la noirceur.
Je dirais que, peut-être pour rebondir un petit peu, je dirais que là, on assiste à la mort d'une reine, on n'assiste pas à la mort d'un dictateur. Hein. Quand un dictateur meurt, c'est le néant après. Là, ce n'est pas le néant, c'est la continuité effectivement d'une famille. Et c'est tout à fait
d'une
étonnant.
D'une solidité, d'un pilier.
Voilà, c'est tout ce qui est étonnant, c'est de voir que le nouveau roi Charles III, il vient de prendre un bain de foule, et les gens sont heureux, sont réjouis finalement. Hein. On va enterrer la reine et en même temps, on sait qu'il y a un avenir.
Alors justement, j'allais y venir. Les images de Charles, tout à l'heure, si on peut les voir en plein écran, s'il vous plaît. Charles serrant la main des sujets hein, de la couronne avec son épouse à ses côtés qui deviendra reine. Donc, hein. Cet homme qui bénéficiait, qui jouissait jusqu'ici d'une certaine liberté de parole finalement, est-ce qu'il va devoir changer son logiciel interne? Comment va-t-il endosser le costume à votre sens? Je reste avec vous, Philippe Delorme, et puis je poserai la question à notre autre historien en plateau.
Bien sûr, mais je pense qu'il a très bien intégré depuis très longtemps les nécessités de sa charge future. Et effectivement, il a à certains moments eu des positions, enfin il a pu donner des avis sur l'écologie, sur l'urbanisme, mais je dirais que les positions qu'il a toujours défendues sont les positions qui aujourd'hui sont devenues les positions dominantes, qui sont devenues presque des dogmes religieux, hein, l'environnement, la planète, etc. Donc à la limite, il pourra continuer, à mon avis, à tenir ce discours en restant consensuel et en... Alors bien sûr, il va être beaucoup plus... Enfin, il va être peut-être moins... moins direct dans
moins vindicatif.
Moins vindicatif, mais il pourra toujours continuer à dire je défends la planète, sauvons la nature, etc. Ça restera consensuel.
Il ne pourra pas changer sa nature propre parce que c'est un homme de son temps aussi.
Alors, ça pose tous les questionnements là que Marc a évoqué tout à l'heure. Moi, je me pose deux questions. D'abord, pourquoi ce séisme, ce traumatisme international, quand Macron dit vous êtes la reine, ce n'est pas une reine, c'est la reine, et c'est un symbole pour toute l'humanité. Pourquoi ? Et quel parallèle avec ce qui nous est arrivé, nous, par exemple, quand le général de Gaulle est mort ? Qu'est-ce qui relie les choses ? Ce qui les relie, c'est une éruption dans l'histoire. Quelque chose de totalement inopiné et de très profond qui est cette jeune fille de 14 ans qui va comme ça faire un appel à la BBC pour les enfants britanniques. Quelque chose de... Voilà, un lien avec une histoire dramaturge, une histoire hystérisée, une histoire qu'on ne pouvait pas prévoir. Ça, c'est quelque chose que ne peut pas avoir Charles. Lui, il est quelqu'un qu'on a vu arriver progressivement et qui n'a pas été associé à ce moment de dramaturgie de l'histoire. Et c'est pour ça que tout le monde dit qu'elle est la dernière grande du XXe siècle qui disparaît. Ça, c'est quelque chose quand même d'unique, quelque chose que les autres n'auront pas. Mais moi, la question que je me pose, c'est, vous savez, il y a eu un film qui s'appelait The Queen, qui parlait d'elle, et puis il y a une série qui s'appelle The Crown. Alors elle est l'intersection de The Queen et The Crown, c'est-à-dire d'une personnalité exceptionnelle, à la fois de surplomb et de proximité réelle avec les Britanniques, et puis de The Crown, c'est-à-dire de la couronne, de la fonction d'être oui. monarque. Alors qu'est-ce qui est le plus important dans le deuil qui nous frappe, dans l'émotion qui nous étreint? Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'on est triste parce que c'était une personnalité exceptionnelle, quelqu'un de très attachant, qui a incarné non seulement sa fonction, mais toute l'histoire de son peuple. Il appartient maintenant à Charles d'incarner la fonction et d'incarner donc l'histoire de la Grande-Bretagne. Ce qui nous manque d'ailleurs dans les autres démocraties, on n'a pas ce type de personnage. Alors, est-ce qu'il va réussir à le faire comme elle? Sans doute pas, parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. D'accord. Mais il a sa personnalité et peut-être que sa personnalité va aussi rejaillir sur sa manière de gouverner.
Deux remarques que j'aimerais faire, Marc, si vous me permettez. Moi, j'ai été très frappée hier par les commentaires. Quand vous dites c'est la reine, effectivement, les commentaires de la classe politique française, y compris à gauche, où on aurait pu imaginer que les commentaires seraient un petit peu polissés ou discrets. Il y a eu une sorte d'unanimité, même ceux qui disaient « moi, je ne suis pas monarchiste, mais quand même, il faut bien avouer que... » Enfin, la personne de cette reine, la personne même de la reine n'est pas contestée ni contestable aux yeux de tous ceux qui nous entourent, de tous nos contemporains. Ça, c'est un fait qui m'a quand même marqué. Et puis, l'autre fait, et là, je reviens plutôt à l'histoire, c'est que cette femme, elle a à la fois enjambé le 19e siècle, puisque Winston Churchill était né en 1874 ou 1875, et le 21e avec sa disparition en 1922. C'est absolument extraordinaire.
Oui, mais alors ça, c'est une lecture très terrestre.
Trop terrestre.
Trop terrestre.
Pardon d'être.
Non, mais vous avez très bien fait de faire. Non, non. Ouais. Non, mais faut rappeler.
Porte-nous sur les.
Non, non. Il faut rappeler quelle est l'incarnation de la transcendance. Mmh. Et elle l'a parfaitement incarnée. Et c'est ça qui nous met en fascination et en dépendance d'elle, mais qui est également la volonté d'une continuité à travers Charles. On ne perd pas un personnage, on garde une institution. Une institution qui est adoubée par le céleste. Et elle est la force. Elle est la force de l'être humain qui peut se galvaniser, qui peut être plus fort que les forces destructrices. Vous voyez, c'est ça qu'elle représente. Donc l'histoire l'a bien placée dès son plus jeune âge, dès l'âge de 14 ans. Elle façonne ça à la fin de la guerre, 4 ans plus tard, en étant encore dans le courage face au malheur de populations qui ont été détruites pendant 4 ans. Elle va, là encore.
Et qui ont sauvé la démocratie.
Complètement. Donc ça, il y a ça. Mais ça ne s'éteint pas avec elle. Quand on dit « elle paraissait impassible », c'est parce qu'elle n'était pas un être humain. C'est la différence entre le président qui est élu, qui est un parvenu en quelque sorte, qui se hisse, qui bouscule éventuellement, pour essayer d'être le meneur à un instant donné. Mais il le gagne presque par effraction. En trompant, la parole du politique n'a aucune valeur. Ça, elle, sa parole, c'est la parole de Dieu.
C'est une vision presque, enfin, très monarchiste déjà.
Ben oui, mais sinon, c'est ça.
Oui, d'accord. Enfin, j'ai l'impression que depuis hier, nous sommes tous monarchistes en fait.
Non, mais non, mais c'est un. Mais parce que.
Il y a des gens qui sont contre l'idée même de monarchie. Quand même.
Oui, mais
l'intérêt de cette institution dans les pays qui ont eu la chance, je dirais, de la conserver. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait la transplanter, je dirais, en France ou en Suisse. On ne voit pas un roi de Suisse.
Mais il y a des anti-monarchistes en Grande-Bretagne aussi, vous le savez.
Oui, mais comme il y a des royalistes en France. Je dirais, la question ne se pose pas en Grande-Bretagne pour la quasi-totalité de la population. Ils ne sont pas monarchistes, c'est comme ça.
Mais il y a besoin d'une instance supérieure. Robespierre, on a tué Dieu et il fait naître l'être suprême. Sans cette référence à quelque chose qui nous dépasse, on se sent un peu paumé.
Allez, on s'interrompt. Vous avez entendu le générique. On revient dans quelques secondes. Merci, Marc.
Cool. Il y a cool.
Deuxième partie du débat à suivre dans quelques instants. Avant cela, le rappel des principaux titres de l'actualité avec plusieurs milliers de personnes massées devant le palais de Buckingham qui ont salué ce vendredi le roi Charles III à son arrivée à Londres. Vous le voyez ici descendant de sa voiture accompagné de son épouse Camilla. Il a serré les mains des sujets. On entendait des cris comme « God save the king » évidemment. C'est tout à fait nouveau pour nous tous que cette expression. Et il devrait d'ailleurs enregistrer dans le courant de l'après-midi avec une diffusion prévue à 19h ce soir sa toute première allocution de monarque. Le portrait précisé de ce nouveau roi avec Yann Effelet.
Il entre dans l'histoire comme l'héritier au trône le plus âgé à devenir roi, 73 ans. Il est aussi celui qui aura attendu le plus longtemps pour commencer son règne. Cela faisait 69 ans qu'il était numéro 1 dans l'ordre de succession. Toute sa vie, il se savait destiné à porter la couronne. Il est le premier héritier à fréquenter une école puis une université. Il choisit Cambridge et en sort diplômé d'histoire. Le 1er juillet 1969, il s'agenouille devant celle qui est à la fois sa souveraine et sa mère. Elle fait de lui le prince de Galles, au cours d'une cérémonie retransmise à la télévision. Sa vie sentimentale a noirci des pages et des pages de journaux. Les Britanniques retiennent surtout de lui le naufrage de son mariage avec Diana. Ils se disent oui en 1981, de leur union naissent William, puis Harry. Mais leur vie quotidienne est rongée par leurs difficultés à s'entendre.
The Prince and Princess of Wales have decided to separate.
Ils divorcent en 1996. Diana dira avoir souffert de la liaison de Charles avec Camilla, la femme dont le prince est réellement amoureux depuis de longues années. Ils attendent l'année 2005 pour sceller leur union. Ces décennies de prince, Charles les a mis à profit en œuvrant dans plusieurs organisations caritatives. Il crée son Prince's Trust en 1976, qui a depuis aidé 1 million de jeunes à trouver du travail ou fonder une entreprise. Écolo avant l'heure, il est reconnu pour son engagement précoce dans l'agriculture biologique. Il préside le WWF et participe à plusieurs conférences internationales sur le climat. Sa formation royale s'est intensifiée ces dernières années. Il était davantage chargé de représenter la reine lors d'événements officiels. Désormais, c'est toute la nation britannique qu'il représente.
Et puis sachez que le cercueil d'Elisabeth II devrait être rapatrié d'Écosse jusqu'à Buckingham à Londres. Dans 4 jours, ce cercueil sera transporté au palais de Westminster. Au bout du 9e jour, auront lieu les funérailles dans l'abbaye de Westminster. Enfin, le cercueil sera inhumé dans la chapelle Saint-Georges, vous le savez. Tout cela a été réglé au millimètre. Les hommages, on continue bien évidemment hier. Pluie d'hommages et de communiqués venant d'un peu partout dans le monde. Emmanuel Macron, lui, a posté ce message sur Twitter. Il a salué une amie de la France et une reine de cœur. Il s'est d'ailleurs exprimé en anglais aujourd'hui, le président. Écoutons-le.
To you, she was your queen. To us, she was the queen. To us all, she would be with us forever. We will remember and perpetuate the values she never ceased to embody and promote. The moral fortitude of democracy and freedom.
L'actualité, ce sont aussi ces tags anti-police découverts à Mulhouse. Hier, Alliance Police a rapidement réagi. D'ailleurs, dans le quartier Bourtzwiller, de nombreuses insultes figurent sur des murs et façades de centres commerciaux. Une enquête, entre-temps, a été ouverte. Et puis, retour aussi en image à ces affrontements entre supporters de l'OGC Nice et du FC Cologne. C'était hier soir dans la tribune, juste avant le match. Et puis, un petit peu plus tôt aussi, les dégradations dans la ville de Nice. Le parquet de cette commune a décidé d'ouvrir une enquête pour 3 chefs d'accusation. Dégradation en réunion, violence en réunion, aux abords du stade et à l'intérieur. Sachez qu'il n'y a eu aucune interpellation à ce stade. Et le bilan provisoire fait état de 32 blessés, dont 7 policiers et 1 stadier. Voilà, vous savez tout. On va continuer à parler de sécurité ou tentative de maintien de l'ordre, dirons-nous. Lui avait promis de revenir après l'agression, vous en souvenez, de 3 policiers à la Guillotière dans le 7e arrondissement lyonnais. C'est bien sûr Gérald Darmanin qui a fait une visite surprise d'ailleurs dans ce quartier ce matin. Puis ensuite, il a rencontré le premier élu de la ville qui sera en direct avec nous d'ici quelques minutes. Grégory Doucet qui répondra à nos questions dans 90 minutes info. Je propose d'écouter ce qu'a dit Gérald Darmanin à propos de son interlocuteur du jour. Vous savez, leurs rapports ont été plus que tendus dans le courant de l'été, et même avant cela, c'est une saga qui se poursuit.
J'ai annoncé l'arrivée de 200 CRS, vous avez vu, à Chassieu pour la métropole lyonnaise l'année prochaine, et qu'il y a 200 policiers de la police aux frontières qui seront là en début de janvier 2023 pour armer le nouveau centre de rétention administratif, puisque j'ai rappelé notamment à M. le maire que 90% de la délinquance à la Guillotière était le fait de personnes étrangères. En revanche, je suis resté très largement sur ma faim, pour ne pas dire très désappointé, du fait que M. le maire de Lyon, pour l'instant, n'a d'ailleurs toujours pas été voir les effectifs de policiers qui ont été blessés cet été. Et je l'ai encouragé à aller voir les policiers nationaux. Il sera évidemment bien reçu au commissariat de police. Que nous n'avons toujours pas eu d'augmentation du nombre de caméras de vidéoprotection, pour des raisons que je ne m'explique pas. Et c'est le seul maire de France avec qui nous avons cette difficulté.
Bon, Jean Garrigue, les choses ne semblent pas très apaisées. On sait qu'il avait réclamé des effectifs supplémentaires pour la police municipale. Oui, mais enfin, il faut bien que je fasse un commentaire. Entre la police municipale, ça n'a pas été fait pour l'instant. Lui, dans le même temps, a annoncé des renforts. On sent que la rencontre n'aura pas servi à grand-chose aujourd'hui.
Il y a une part de communication. Gérald Darmanin occupe le terrain depuis cet été. Bon, mais en même temps, c'est un choc des cultures parce qu'on voit bien qu'il y a une réticence d'un certain nombre d'élus, notamment de ces maires écolos qui ont été élus dans la grande vague des maires écolos des dernières élections municipales, qui ont de manière idéologique une répugnance à utiliser un certain nombre de moyens à leur service pour assurer l'ordre public, que ce soit les caméras ou le renforcement des polices municipales. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui essaye de montrer que la politique de son gouvernement est une politique qui prend à bras le corps les enjeux régaliens et notamment celui de la sécurité. Donc il n'y a pas de raison que les choses s'améliorent. Chacun a intérêt à montrer qu'il est, par rapport à son électorat, dans son couloir, qui fait le job. Et finalement, c'est un petit jeu de « je t'aime moi non plus » où chacun entretient un petit peu l'autre sur ses positions. Maintenant, je pense qu'il y a une opinion publique aussi. Et moi, mon sentiment, alors, c'est pas très original, c'est que l'opinion publique, de plus en plus, elle veut des réponses, elle veut de la fermeté par rapport à ces déficiences de l'ordre public. C'est même plus que des déficiences par rapport à cet ensauvagement dont on parlait tout à l'heure. Donc me semble-t-il, il y a urgence de la part, y compris d'élus de gauche comme le maire de Lyon, d'essayer de changer un petit peu son logiciel, de comprendre qu'on attend peut-être un peu plus de lui.
On va revenir aux mots, Marc, qu'il avait eus à l'égard de Grégory Doucet il y a à peine 2 mois hein, maintenant. Il lui avait dit « on envoie une compagnie de CRS pour pallier la naïveté » ou le militantisme naïf de votre personne. Il y a une idéologie anti-flic. Vous avez une idéologie anti-flic, lui avait-il dit. Donc voilà, il était... Justement, c'est pour rebondir sur ce que vous
c'est
disiez.
C'est de la politique, mais enfin...
Il était allé quand même, un petit peu loin dans le propos.
Oui, non, mais déjà tout à l'heure, vous présentez bien les choses, parce que vous le faites de façon malicieuse. Et ça fait ressurgir quoi? Mais je dirais un monde de politicards. On attend quoi? On n'attend pas un débat public de guerre de mots comme ça? On voudrait que des politiques se retrouvent dans les arcanes, qu'ils travaillent sérieusement et qu'ils arrivent avec un résultat. Quel est ce monde où on a l'injure, l'invective vis-à-vis du ministre, vis-à-vis du maire? Vous avez eu raison de souligner ça tout à l'heure. Moi, je trouve ça incroyable que le ministre soit là, comme ça. Vous vous rendez compte, vous êtes ministre, il y a un maire qui, théoriquement, est censé régler les problèmes de sa région et vous le traitez pratiquement d'incapable, de fainéant, ne prenant pas la moindre initiative. Et l'autre, là, je reprends les autres propos que vous venez de citer, mais avouez quand même, dans un monde où on a du mal à déterminer les gens pour se rendre dans les salles de vote, ça, c'est pas demain qu'ils vont changer d'attitude. Vous vous dites, mais c'est pas possible qu'ils agissent.
On va y revenir tout à l'heure. L'autre actualité qui nous occupe aujourd'hui, c'est bien sûr la disparition de la reine. Philippe Delorme est avec nous.
Pas de la reine Philippe Delorme.
Également. Vous avez décidé de tout ça.
Mais pas du tout. Mais non, Nelly.
Alors, la reine est morte, vive le roi. Il sera sacré demain matin, Charles III.
Proclamer ça.
Pardon, proclamer, bah, vous assister, décidément. Bon, allez, on va envoyer le sujet sur la douleur des Britanniques ce matin.
Le deuil s'abat sur le Royaume-Uni. Le drapeau est en berne, comme le moral des Anglais nombreux à venir se recueillir devant Buckingham Palace depuis l'aube. Tous peinent à réaliser le départ de leur souveraine.
Je pense qu'il faut se souvenir d'elle comme d'une dirigeante extraordinaire dans une époque de changement profond. Je suis très triste et émue.
Elle a toujours été dans ma vie. Je n'ai connu rien d'autre. Donc c'est un gros choc. Les choses vont changer. Nous allons avoir une monnaie différente. Ça va juste être incroyable. Les choses vont changer.
Réveil difficile également au nord de l'Écosse. Devant le château de Balmoral, la dernière demeure de la reine, les fleurs se comptent par dizaines.
Il y a aussi les tenues de la reine. Alors ça, c'est quand même un collector. On vous a gardé le meilleur. Regardez, ces tenues toujours pastel ou flashy, c'était selon. Et puis surtout, ces sacs mémorables. Le tout mis en image.
Un style reconnaissable entre tous. Peu commun pour une chef des forces armées. Les tenues d'Elisabeth II, parfois désuètes, souvent flashy, c'est sa technique imparable pour être vue par le public, malgré son 1m60. La reine aura également fait de ses chapeaux sa signature. Du bonnet des premières années, à la casquette de la princesse conduisant une ambulance pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la couronne posée sur sa tête en 1953. Sa robe est dessinée par son couturier fétiche, Norman Hartnell.
La robe du couronnement est considérée comme l'une des pièces les plus importantes de la mode britannique du XXe siècle, réalisée par un créateur de mode britannique. La reine a choisi parmi les 8 options différentes que Hartnell lui a présentées et elle a fait ses propres interventions dans la conception.
Perles, cristaux, broderies, la reine porte parfois des œuvres d'art. Mais beaucoup de ses tenues sont signées Angela Kelly, ici en noir à droite de l'image. L'habilleuse britannique est si proche de la reine qu'elle porte ses souliers neufs avant elle pour lui éviter des ampoules. Ensemble, elles ont mis au point un style classique qui s'ajuste à toutes les sensibilités culturelles, comme ici, aux Émirats Arabes Unis.
Les vêtements soutiennent la reine dans ses divers rôles, en tant que chef de l'État, mais aussi chef du Commonwealth, chef des forces armées, chef des ordres de la chevalerie, et ainsi de suite.
Les tenues de la reine sont autant d'armes diplomatiques pour celles qui n'avaient pas le droit d'exprimer ses opinions politiques. Pourtant, certains de ses choix vestimentaires ont semé le doute. Comme ce chapeau porté au Parlement en plein Brexit. Avec ses 5 fleurs jaunes disposées en cercle sur fond bleu, la ressemblance avec le drapeau européen est troublante. Mais Angela Kelly affirmera dans un livre qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. Un an plus tard, alors que Donald Trump est en visite au Royaume-Uni, Elisabeth II choisit 3 broches. La première est un cadeau du couple Obama, la deuxième vient du Canada avec qui le président américain est en froid, et la troisième est celle portée à l'enterrement de son père, George VI. La reine essayait-elle de passer un message sans un mot ? Elle le faisait en permanence avec son personnel grâce à un code secret impliquant son traditionnel sac de marque britannique. Bras gauche, l'entretien pouvait continuer. Bras droit, la reine s'ennuyait, il était temps de s'en aller.
Marc, elle envoyait donc des messages à travers ses tenues. À l'époque, on aurait dit toilettes, hein, quand on parlait de ses toilettes, quand on parlait de nos mères ou de nos grand-mères. J'ai cru lire hier, vous me corrigerez si c'est faux, mais qu'elle n'avait pas accordé d'interview en tant que souveraine. Est-ce que c'est vrai qu'elle n'accordait pas d'interview?
Non.
Non. Quand même, elle est intervenue à la BBC.
L'interview auprès d'un
c'était un grand média ou d'un journal.
Un reportage.
Non, le seul qui l'a fait. Son mari avait accordé une interview, je crois, oui. Pour je ne sais plus quel anniversaire, oui. C'est 90 ans ou quelque chose comme ça. Mais c'était extrêmement rare. Pour revenir aux robes, enfin, il y a une anecdote qui est amusante. On a vu la robe de son mariage. Et on est en 52, donc il y a encore des restrictions. À la fois alimentaire, textile, etc. Et les Anglaises vont lui envoyer des bons de textile pour qu'elle puisse acheter un supplément de tissu. Et puis finalement, les choses se sont arrangées. Donc on a renvoyé les bons de textile aux dames en question. Mais enfin, vous voyez, les Anglaises voulaient en quelque sorte participer à la confection de cette robe à une époque où le tissu était rationné. Et donc... Bon, c'est assez joli comme image.
On a souvent dit que les tenues étaient le reflet de son humeur, là où on disait d'elle qu'effectivement, elle était toujours d'humeur impassible et toujours d'humeur égale. Hein.
Oui, et puis ce choix des couleurs, c'était aussi une manière justement d'incarner, de se faire remarquer au milieu de la foule, d'être quelque chose de différent. C'est très important. De même que l'idée que vous avez agitée, c'est-à-dire de ne pas donner d'interview comme ça. Never explain, never complain. C'est-à-dire que vous, le roi ou la reine, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui prend de la distance. Il ne peut pas se confier, il ne peut pas être au ras des pâquerettes, au ras des autres.
Est-ce qu'on ne peut pas dire, est-ce que plutôt qu'il prend de la hauteur, il incarne la hauteur? C'est une grande différence.
Parce que j'allais rajouter quelque chose, c'est que, et c'est ça qui est le secret, je veux dire, et qui le différencie des présidents de la République, notamment des derniers du XXIe siècle, ou de la majorité des hommes politiques, c'est-à-dire qu'ils sont à la hauteur, ils incarnent la hauteur, et en même temps, comme c'était son cas, elle pouvait incarner aussi une très grande proximité, une très grande attention à ses sujets. Tout le monde dit que lorsqu'elle visitait un EHPAD ou que ce soit une maison de retraite, un hôpital, elle était extrêmement proche des gens, elle était à leur écoute.
Elle incarne la hauteur parce qu'elle ne la recherche pas aussi.
C'est ça.
Elle est là par hasard, en quelque sorte, enfin par le hasard de la naissance, en tout cas.
Oui, mais c'est là.
Après, vous pouvez dire la
naissance. Mais non, mais c'est pas moi qui. Là, on est dans le symbolique.
Elle n'a rien à prouver.
Voilà.
En tout cas, elle est là. Elle ne demandait pas à y être.
Voilà.
Et elle fait le job sans qu'on lui...
Elle n'a pas à tricher, elle n'a pas à racoler, elle n'a pas à avoir une parole fluctuante. C'est, dès le départ, elle est en place, car quelque chose...
C'est quelque chose qui lui tombe dessus, en quelque sorte.
Et qui la désigne. Oui. Par conséquent, elle n'a pas à répondre à la presse. Oui. Au-delà de la réserve qui est induite par le fait qu'elle n'est pas la personne exécutante d'une politique.
D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, là, parce que Charles III, là, quand il serre les mains, là, enfin, c'est plus le prince de Galles. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le corps du roi qui l'intègre. Il a intégré la fonction. Donc il est le roi. Et les gens, lui serrent la main, ils se rendent compte.
Mais il y a une différence quand même, Marc, pour vous.
Voilà. C'est pas ça, c'est que je crois que si l'on reste dans ce principe de quelque chose de... qui nous dépasse, de supérieur, qui nous place en dehors de notre petite humanité, de notre grouillement, il ne devrait pas avoir cette attitude-là. Il devrait rester à distance. Oui. Quand vous lisez toute l'histoire... Tout à l'heure, il y a une femme qui l'embrasse. Vous imaginez quelqu'un qui irait embrasser Louis XIV?
Ah oui, parce que lorsqu'il touchait les écrouelles, il les embrassait.
C'est roi tôt nature.
Dizaines de milliers par an.
C'est pas de cette façon-là que ça se passe.
Ah, mais si, le bain de foule a été inventé par les rois.
Non, mais je comprends ce qu'il veut dire.
Non. Cette femme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous venez en attendant le miracle de celui qui est l'intercesseur, qui est l'intercesseur. Il vous touche. Parce que à ce moment-là, il est le fluide de Dieu. Mais de manière... C'est pas du tout la même chose que je te tire à la poigne.
Mais là, on arrive dans côté japonais. Enfin, c'est la mystique de l'empereur japonais qui est complètement...
C'est intouchable. Mais vous savez, de manière très étonnante, ce type de comportement, c'était ce qui était attribué aussi au général de Gaulle. Je veux dire que les gens venaient, y compris pour faire... toucher leur bébé par le général de Gaulle, comme le roi thaumaturge, comme le toucher des écrouelles. Pourquoi ? Parce que de Gaulle s'était lui aussi élevé à une hauteur. Alors une hauteur qui n'était pas du même ordre de transcendance, parce qu'il n'était pas un monarque dynastique, mais par son rôle dans l'histoire, parce qu'il incarnait de la France,
il était
aussi parvenu à cette.
Alors, elle avait quand même de l'humour, Elle savait se mettre aussi au rang, enfin au même niveau que ces sujets. En tout cas, elle était en prise avec la pop culture ou la culture tout simplement de elle n'était pas complètement hors sol et complètement.
C'est la pop culture qui l'a réclamée.
Elle avait anobli les Beatles, mais c'était une époque où elle était encore une jeune femme. Hein. Elle avait à peine 40 ans 60, hein. Lorsque les Beatles étaient à la mode. Donc elle est de l'époque des Beatles d'une certaine
manière. Mais alors regardez ce qu'elle a fait avec l'ours Paddington, qui est quand même une sommité aussi en Grande-Bretagne. Regardez cette fameuse séquence où elle prend le thé avec l'ours Paddington.
Thank you for having me. I do hope you're having a lovely jubilee.
Tea?
Oh, yes, please. Oh, terribly sorry.
Never mind.
Oh dear. Perhaps you would like a marmalade sandwich. I always keep one for emergencies.
So do I. I keep mine in here.
Jean Garrigue, elle s'est vraiment prêtée au jeu, hein. C'est pas assez compliqué. Non, mais elle est quand même assez bonne.
Je pense qu'il y a eu une évolution quand même dans sa communication à partir des affaires Diana.
Il y a eu quelque chose, à partir de 2000, une équipe de professionnels qui prend ça en main.
Mais ça n'empêche que c'est très révélateur d'abord de sa capacité d'autodérision. Tout le monde dit qu'elle avait cette autodérision, cet humour sur elle-même, ce retour sur elle-même, qui n'empêche pas d'être à la hauteur. Et là, en fait, elle reprend un dialogue avec Paddington, mais Paddington, c'est aussi quelque part un témoin, finalement, de la culture britannique, une culture pour les enfants, etc. Mais c'est quelque chose qui fait partie du patrimoine.
Ce sont deux monuments.
Ces deux monuments. Donc, elle n'est pas décalée par rapport à ça. Elle est... Comme elle est l'histoire.
Elle ne rencontre pas les youtubeurs, je ne sais comment, à l'Élysée.
C'est ça.
C'est tout à fait différent. C'est
une bonne image. Voilà. C'est-à-dire que.
C'est pas les youtubeurs.
Entre les attitudes du président Macron, il y a un côté.
Macron et ses prédécesseurs.
Lui, il pousse à l'extrême par rapport aux youtubeurs, etc. Tandis que là, on reste dans une élégance intellectuelle. Et. Je l'ai déjà dit, pardon si certains nous font l'honneur d'être avec nous depuis hier ou qu'ils nous ont déjà fréquentés, il est bon de se rappeler que le prince Philippe a joué un grand rôle dans cette capacité à la dérision.
Parce qu'il avait beaucoup d'humour.
Parce qu'il avait cet humour. Et aujourd'hui, alors qu'on est dans cette susceptibilité invraisemblable, il avait l'humour noir. Je dirais qu'il était capable de pousser la dérision de style dans les chansonniers des années 50, où on faisait grincer l'âme. On était dans une provocation extrême. Et ça... Il venait de temps en temps lui souffler à l'oreille. Et comme elle avait besoin de cet homme qui était son rock, comme elle le dit...
C'était le seul qui la considérait comme une femme. Alors là, pour le coup, il allait voir la femme. Enfin, la femme, il y avait la femme et la reine. Et la femme avait quand même besoin de temps en temps que...
Le corps privé.
Complètement, mais elle s'est laissée... Elle s'est laissée imprégner par ça. Elle a compris tout le bien qu'elle pouvait en tirer. Et ça lui permettait, dans cette stature qui, par essence, était la sienne... de gérer néanmoins sa partie humaine. Car on a besoin d'être une... On est une incarnation de droit.
Corps privé.
Voilà.
Mais vous savez, c'est quand même une tradition familiale. Sa mère, Queen Mum, elle avait un humour considérable. Elle disait, par exemple, vous savez, Queen, ça veut dire homosexuel en anglais. Elle disait à ses valets qui étaient tous des Queens, elle disait, elle est Queens là-haut, venez vous occuper de la vieille Queen qui est ici. Donc,
sinon, elle va queener.
C'était quelqu'un
qui... Vous vous rendez compte aujourd'hui, quand on
voit... C'est le secret du palais, quand même.
Non, mais, Lily,
enfin,
aujourd'hui, le moindre petit mot, on dit comment vous êtes homophobe et tout. Il savait s'amuser.
Oui, il y avait une espèce
de belle leçon.
On va s'interrompre à nouveau et on viendra pour parler de sécurité à Lyon. Vous le savez, nous serons en direct avec Grégory Doucet, puisque Gérald Darmanin était sur place. Il l'a rencontré à la mi-journée. La rencontre a enfin eu lieu, si on peut se permettre ce commentaire. Et on lui posera toutes les questions que vous voulez, y compris Marc et Jean, dans un instant à Grégory Doucet, tout à l'heure. De retour avec vous pour la dernière partie de l'émission 90 minutes info. Le débat reprend et nous serons en direct avec Grégory Doucet, le maire de Lyon, d'ici un tout petit instant, juste après le flash de Adrien Spiteri. Rebonjour Adrien.
Les Britanniques se sont réveillés en deuil après le décès de la reine. À Londres, des milliers de personnes se réunissent aujourd'hui devant le palais de Buckingham pour déposer des bouquets de fleurs, des bougies ou encore des messages. Ils veulent tous lui rendre un dernier hommage. Nous sommes tous dévastés, ce sont les mots de Liz Truss après le décès d'Elisabeth II à l'âge de 96 ans ce jeudi. La première ministre s'est adressée aux Britanniques hier soir. Partout dans le monde, les hommages à la reine se multiplient. Et puis, réunion de crise aujourd'hui pour les ministres de l'énergie européens. À Bruxelles, ce sommet extraordinaire doit permettre la mise en place de nouvelles mesures pour faire face à la crise énergétique. Ils vont tenter de se mettre d'accord pour enrayer l'envolée des prix du gaz et de l'électricité.
Il avait promis de revenir sur place après l'agression de trois policiers à la Guillotière dans le 7e arrondissement lyonnais. Gérald Darmanin est donc venu ce matin sur place. Visite surprise, inopinée. Il était prévu qu'il vienne dans la ville, notamment pour rencontrer Grégory Doucet, qui sera en direct avec nous dans un tout petit instant. Mais il n'était pas prévu qu'il se rende à la Guillotière à proprement parler. C'est chose faite et il assure désormais, Gérald Darmanin, que les efforts fournis ces dernières semaines portent leurs fruits avec une forte baisse de la délinquance sur place. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit avant de retrouver le premier élu de la ville.
J'ai annoncé l'arrivée de 200 CRS, vous l'avez vu, à Chassieux pour la métropole lyonnaise l'année prochaine, et qu'il y a 200 policiers de la police aux frontières qui seront là en début de janvier 2023 pour armer le nouveau centre de rétention administratif, puisque j'ai rappelé notamment à monsieur le maire que 90% de la délinquance à la Guillotière était le fait de personnes étrangères. En revanche, je suis resté très largement sur ma faim, pour ne pas dire très désappointé, du fait que monsieur le maire de Lyon, pour l'instant, n'a d'ailleurs toujours pas été voir les effectifs de policiers qui ont été blessés cet été, et je l'ai encouragé à aller voir les policiers nationaux, il sera évidemment bien reçu au commissariat de police, que nous n'avons toujours pas eu d'augmentation du nombre de caméras de vidéoprotection, pour des raisons que je ne m'explique pas, et c'est le seul maire de France avec qui nous avons cette difficulté.
Bonjour Grégory Doucet. Merci d'être en direct. Bonjour. Sur notre antenne cet après-midi. À l'époque, précision, vous n'aviez pas souhaité le rencontrer parce que vous lui reprochiez en fait une entreprise de communication assez marquée de sa part. Aujourd'hui, vous l'avez vu, rencontre en face à face. Vous lui demandiez plus d'effectifs sur le terrain pour remédier au problème. Visiblement, on lui dit c'est chose faite. Il a, de son point de vue, tenu sa promesse. Ce qui veut dire que vos rapports, ils sont apaisés aujourd'hui, ça y est ?
Bah, écoutez... Le ministre Darmanin est venu à ma rencontre, je l'ai reçu à l'hôtel de ville, on a passé un temps certain ensemble, plus d'une heure à échanger sur la situation. Bon, bien évidemment, on a aussi parlé de nos désaccords sur un certain nombre de sujets de fond, et puis on a échangé sur les différents points sur lesquels on s'était entendu. On a parlé effectifs, on a parlé enfin, des différents sujets sur lesquels on avait prévu d'échanger. Malgré tout, comme ça a été dit un peu plus tôt, présenté là sur votre antenne, il y a eu cette visite réalisée sur le quartier de la Guillotière. Bon, cette visite du ministre, elle est évidemment politique. C'est un ministre candidat qui vient à Lyon. J'ai déjà dit ce matin, moi, j'ai pas envie que Lyon soit simplement un terrain de jeu pour un ministre candidat. Voilà. Malgré tout, on travaille bien de notre côté avec les services de la préfecture, avec les services du procureur de la République également, et on avance.
Vous dites, on a des désaccords de fond, mais pour qu'on comprenne, vous ne devriez pas avoir un objectif commun, c'est-à-dire votre objectif, vos objectifs ne devraient pas converger aujourd'hui pour assurer la sécurité des Lyonnais ?
Si, bien sûr, c'est un objectif qu'on partage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais à l'instant qu'on travaille bien avec la préfecture, avec les services du procureur, sur tous les territoires où les phénomènes de délinquance sont importants. Le ministre le disait ce matin, la mobilisation supplémentaire de policiers sur le quartier de la Guillotière eh bien, porte ses fruits. Vous savez, c'est ce que je lui demandais depuis le début, hein, depuis le début de ma mandature. J'avais été le voir pour lui demander des policiers supplémentaires. Ils ont mis du temps à arriver, voilà, maintenant ils sont là. Surtout, je lui ai rappelé ce matin que c'était important que les policiers soient visibles, soient sur le terrain. C'est ce que font aujourd'hui les CRS qui sont sur ce quartier-là notamment. Ils font des patrouilles pédestres. Eh bien, ça permet de dissuader, ça permet de faire de la prévention et ça, c'est important.
Vous dites il l'a finalement fait. En gros, c'était sa charge. Lui, vous disait il faudrait que vous fassiez votre part également, puisque à l'époque, on le rappelle, il aurait aimé que vous augmentiez les effectifs municipaux. Il aurait aimé que vous amélioriez la vidéosurveillance ou encore que vous preniez des arrêtés anti-rassemblement. Pourquoi ne pas avoir joué le jeu pour aller dans le même sens, travailler de concert pour le même objectif?
Non. C'est exactement ce que nous faisons depuis le début de cette mandature. Vous savez, j'ai investi 5 millions d'euros dans les équipements dédiés à la sécurité et notamment sur les dispositifs de vidéosurveillance. Pour vous donner quelques exemples, on a fait l'acquisition de caméras nomades, on équipe nos policiers municipaux de caméras piétons. On a augmenté la rémunération de nos policiers municipaux. Cette année, on a mis 500 000 euros pour augmenter leur rémunération, pour faire en sorte d'avoir une police municipale qui soit plus attractive à la ville de Lyon. D'ailleurs, depuis 2020, on a recruté sur Lyon, comme jamais on a recruté auparavant, des policiers municipaux. 103 policiers municipaux ont été recrutés depuis 2020, ça ne s'était jamais vu. Donc oui, nous aussi, on est très investis. Effectivement, la sécurité, c'est quelque chose qu'on travaille ensemble. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille très bien avec la préfecture, avec les services du procureur, et on avance. On le voit, on a des résultats aujourd'hui, effectivement, sur le quartier de la Guillotière, notamment.
Bon, ben alors aujourd'hui, du coup, vous dites bravo Gérald Darmanin et bravo la police nationale ?
Je dis bravo à tous les agents, police nationale, police municipale. Vous savez, moi, je suis d'abord, en premier lieu, en responsabilité de la police municipale. Eh bien, je leur rends hommage d'abord parce qu'ils sont extrêmement investis. Tous les matins, sur la place Gabriel-Péri, dans ce quartier de la Guillotière, eh bien, je mobilise les forces de la police municipale eh bien, pour patrouiller, pour être présente auprès des habitantes, des habitants, des commerçants de cette place. Et on prend notre part, oui. Eh bien, oui, c'est cet effort conjoint qui fait qu'on arrive eh bien, à ramener de la sécurité, de la tranquillité publique dans notre ville.
Grégory Doucet, juste une question. Cette fameuse place Gabriel-Péri que vous évoquez, qui est en plein cœur de la Guillotière, c'est un peu le point névralgique de ce quartier que les Lyonnais connaissaient bien, j'allais dire, parce que pour certains, ils le connaissent moins bien aujourd'hui. Par exemple, jusqu'à récemment, quand on était une femme, le soir, vous savez très bien, c'était devenu impossible de se promener place Gabriel-Péri. Est-ce que ce n'était pas insupportable, quand même, de vous dire ça pour le maire que vous êtes, qu'il y avait des No Woman's Land dans votre ville?
Absolument.
Et est-ce que vous pouvez nous assurer que ça ne se reproduira plus, donc?
Absolument. Et c'est pour ça que nous mobilisons de notre côté la police municipale et que je suis satisfait de la mobilisation de la police nationale. Je veux dire, on ne pouvait pas laisser cette situation perdurer. Alors après, cette situation, elle n'est pas nouvelle. Vous savez, la place Gabriel-Péri, ça fait très longtemps qu'elle était soumise eh bien, à une délinquance, à des incivilités assez importantes. Eh bien, on a pris à bras-le-corps ce sujet dès notre élection. C'est pour ça, encore une fois, que j'avais été voir le ministre Darmanin déjà à l'époque. Mais on mobilise de manière spécifique notre police municipale sur la place Gabriel-Péri. Eh bien, voilà. De jour en jour, de semaine en semaine, eh bien, ça finit par porter ses fruits, par donner des résultats. C'est ça qui est important.
Bon, on essaiera de faire la même interview avec Gérald Darmanin pour lui demander si lui, il trouve qu'il y a assez de policiers municipaux sur le terrain. On verra s'il est content, lui aussi, des efforts que vous avez fournis, puisque vous nous dites sont trois agents.
Il me disait ce matin qu'il les avait rencontrés, puisque il est allé sur la place Gabriel ce matin, Gabriel-Péri, pardon, ce matin. Il m'a dit lui-même avoir pu rencontrer des policiers municipaux. C'est bien la preuve qu'ils y sont le matin.
D'accord. Marc, vous avez une question à lui poser?
Oui, enfin, deux choses, monsieur le maire. La première, est-ce que ça signifie que le ministre est un menteur dans la mesure où il dit il n'y a pas de caméra de surveillance placée par le maire, il serait temps qu'il s'agite? Alors tout à l'heure, vous nous dites, mais moi j'ai acheté des caméras. Donc il ment. Et deuxième point, il dit apparemment que vous n'avez pas eu l'humanité d'aller rendre visite aux policiers qui avaient été victimes de quelques agressions. Que pouvez-vous répondre à cela? Et veillez-vous à ce qu'il y ait cette entente entre ceux qui ont le risque quotidien pour apaiser votre ville? Et vous?
Nous avons sur Lyon 571 caméras déployées dans toute la ville. Sur la place Gabriel-Péry, le lieu dont nous parlions à l'instant, il y a plus de 30 caméras sur le secteur qui sont déployées. Donc nous avons des images de vidéoprotection en permanence. Moi, j'ai une équipe d'agents au centre de surveillance urbaine qui visionnent ces images en direct. Et quand ils s'aperçoivent qu'il y a ici une tentative de vol, par exemple, ou même un délit qu'ils observent en direct, eh bien, immédiatement, ils font remonter à la police municipale, à la police nationale, pour qu'il y ait une intervention. Donc, oui, la ville de Lyon est une ville bien équipée en caméras de vidéoprotection. On a fait le choix, nous, récemment, d'équiper la ville de caméras nomades, c'est-à-dire des caméras qu'on peut déplacer de manière à pouvoir suivre spécifiquement l'évolution des phénomènes de délinquance. Voilà, on considère que cette agilité que nous offrent ces caméras nomades nous permet de gagner en efficacité. Quant à la deuxième question que vous me posez, vous savez, j'ai réagi tout de suite quand il y a eu cette agression des policiers nationaux il y a maintenant plusieurs semaines, en leur apportant mon soutien, notamment via les réseaux sociaux. À chaque fois qu'il y a une agression,
Monsieur le maire,
à chaque fois qu'il y a une, vous savez, laissez-moi terminer s'il vous plaît aussi.
Oui, mais non, mais duplex, je vous demande,
c'est pas toujours évident d'interagir avec vous.
Vous savez. Je vous laisse parler. Hein.
Oui, vous savez quand il y a un incident, quand il y a une agression, quand il y a un accident qui concerne les agents de la police municipale, systématiquement, eh bien, je les appelle pour prendre de leurs nouvelles. Ça me paraît évident. En l'occurrence, concernant les policiers nationaux, j'ai tout de suite manifesté ma solidarité auprès d'eux pour leur dire oui. C'est pas normal que cette agression abominable ait pu avoir lieu place Gabriel-Péry. D'ailleurs, immédiatement après, on a transmis au service de police les images qui avaient été prises de cette agression de manière à ce que l'enquête puisse avoir lieu. Et d'ailleurs, vous avez dû en parler sur vos antennes. Un certain nombre d'auteurs, de personnes qui ont fait partie de cette agression, ont pu depuis être arrêtés.
Et sur les rodéos, est-ce qu'il y a du mieux? Est-ce que vous avez pris des mesures supplémentaires? Parce qu'on sait que malheureusement, Lyon s'est un petit peu illustré en la matière. Lesquelles?
Absolument. Vous savez, Lyon a été, comme toutes les grandes métropoles, touchée par le phénomène des rodéos urbains. On a peut-être été touché un peu plus massivement à une époque, donc on a eu une réponse extrêmement volontariste que l'on a construite avec la police nationale, avec les services de la préfecture, avec également les services du procureur de la République, très important. Et donc, on a monté une cellule rodéo, on a coordonné nos actions entre police municipale, police nationale et justice. Et grâce à cette action coordonnée, grâce à un certain nombre d'actions ciblées aussi, flash, pour aller saisir des véhicules, interpeller des auteurs. D'ailleurs, on a fait appel à de la vidéo, aux images de la vidéo pour ça. Eh bien, on a pu faire baisser le nombre d'occurrences de rodéo d'environ 40%. Alors, on n'a pas complètement tout résolu, bien évidemment, mais on continue d'avoir une action volontariste.
C'est-à-dire que les rodéos place de la mairie, sous vos fenêtres, c'est fini?
Écoutez, c'est fini. En tout cas, comme
vous
je vous l'ai expliqué à l'instant, on a une
adéquat.
Action volontariste. Oui, il y a une doctrine qui a été établie. Nos services se coordonnent de manière très efficace et on a pu arrêter un certain nombre d'auteurs. Vous savez, sur les rodéos, je crois que certains ont compris aussi que les quelques secondes de gloire qu'on pouvait tirer sur les réseaux sociaux à faire un rodéo dans un lieu public symbolique ne valaient pas la peine de passer plusieurs mois en prison. Il y a eu des peines assez lourdes de prononcer ici à Lyon par les tribunaux. Ce qui en a sans doute dissuadé un certain nombre de commettre des rodéos.
Un dernier mot, et on va vous remercier bien sûr de nous avoir rejoints tout au long de cette demi-heure. Grégory Doucet, vous avez prévu d'augmenter ou de renforcer le recrutement de vos effectifs municipaux pour être un petit peu, on va dire, à parité avec le renforcement des effectifs nationaux pour le coup?
Alors j'ai pris la décision d'augmenter les effectifs de la police municipale. Dès mon arrivée en fait, aux responsabilités, on savait qu'il fallait qu'il y ait plus de policiers municipaux pour pouvoir réaliser l'ensemble des missions sur l'ensemble du territoire. Aussi parce que, vous savez, les missions de la police municipale sont très diverses. On intervient bien évidemment sur la voie publique, on vient en soutien à la police nationale, on est présent lorsqu'il y a des grandes manifestations, des manifestations festives, sportives. On est là aussi pour agir sur la sécurité routière. Donc voilà, la police municipale fait beaucoup de choses, très engagée, elle est très engagée sur la ville de Lyon. Et donc on avait déjà fait le constat en arrivant en responsabilité qu'il fallait augmenter les effectifs. On a aujourd'hui un effectif de 365 policiers municipaux, ça c'est l'effectif théorique, et on est en train de recruter, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis 2020 on n'a jamais autant recruté de policiers municipaux. Et pour faciliter ce recrutement notamment, on a décidé en ce début d'année 2022 d'augmenter la rémunération des policiers municipaux. C'est 500 000 euros qu'on a mis sur la table pour augmenter cette rémunération.
Merci beaucoup Grégory Doucet d'avoir répondu à nos questions. Et on va remercier évidemment Olivier Madinier qui est notre correspondant dans cette belle ville de Lyon et qui était Merci. À la manœuvre pour la réalisation de ce duplex. Merci à tous les deux. Marc, peut-être une réaction. Il vous a convaincu à l'instant, Grégory Doucet ?
C'est un peu lâche de faire le commentaire qu'il est plus là pour me répondre. Moi, ce qui me choque, c'est que, bon, déjà, il y a toujours cette guerre entre les deux. Ouais. Et je trouve que c'est malsain sur le plan démocratique. Et puis, on parle de répression, on parle de répression, on parle de répression. Moi, je crois que il n'y a pas que des gamins qui naissent salopards et qu'il y en a qui s'inscrivent dans un désœuvrement, mais qu'ils sont récupérables. Et là, on ne parle pas beaucoup de ce qu'on leur offre comme possibilité pour échapper à la délinquance. Est-ce que s'il y avait trois talus à la sortie de Lyon, avec la possibilité d'aller avec je ne sais trop quel VTT ou deux mobylettes à fabriquer, sans faire trop de tintamarre pour ne pas nuire aux passants et aux gens dans l'environnement, il n'y aurait pas là la possibilité d'être dans l'exaltation de la jeunesse où on aime le risque et que ça permettrait une pacification et de donner aux gamins l'idée que, oui, la nation leur offre une considération et qu'ils sont donc capables, en retour, de s'inscrire dans un principe de civilité. Je crois que ça serait important aussi qu'il y ait ça.
Offrir de nouvelles, d'autres perspectives voilà. qu'une sorte de fatalisme voilà. auquel on les croit destinés. Voilà. Vous êtes d'accord, Jean, avec
Oui, bien sûr. Forcément, la sanction, la répression doivent être assorties aussi de mesures de prévention. Ça fait partie de la prévention que de donner des débouchés professionnels ou de loisirs à des jeunes comme ça qui sont dans le désœuvrement. C'est une certitude. Maintenant, beaucoup d'argent a été investi, notamment dans les quartiers depuis des années. On a parlé des terrains de sport, etc. Donc c'est quand même très compliqué. Mais effectivement, on ne peut pas mener une politique qui soit uniquement de répression et de sanctions. Moi, ce qui m'intéressait en revanche, justement, c'est que malgré tout, ils se soient parlé. Et que ce dialogue qu'on a vraiment déploré comme étant quasiment inexistant entre le pouvoir exécutif et les territoires, et notamment ses grands-mères, parce que maire de la deuxième ville de France...
Mais là, ça allait plus loin encore. Le lien était rompu. Voilà. Quand vous avez un Gérald Darmanin qui le taxe d'idéologie anti-flic, voilà. On peut aisément imaginer que ces deux-là ne se parlaient pas du tout.
Donc moi, je pense qu'il est urgent et impératif oui. de renouer ce type de dialogue. Je ne sais pas ce que ça vaut, parce que chacun reste effectivement dans ouais. sa trajectoire politique, et je dirais même politicienne. On est d'accord. Mais il n'empêche que c'est au prix de ce type de rapprochement. Moi, j'ai l'impression que, quelque part, malgré ces polémiques, le maire de Lyon, il a un tout petit peu évolué sur ces questions de sécurité. Si je me réfère à ce qu'il nous dit, oui, il y a eu incontestablement
une volonté
évolution.
D'apaisement quand même.
Il y a une volonté d'apaisement.
Oui,
donc, je ne sais pas si c'était la bonne méthode, mais en tout cas, je pense que c'est indispensable que, je le répète, l'exécutif et les territoires se parlent.
Dans un instant, vous retrouverez...
Pas spécialement public.
Vous retrouverez dans quelques minutes Patrice Boisfer pour le début de Punchline. On va vous remercier évidemment d'être venu, de m'avoir accompagné tout au long de l'après-midi, ainsi que Philippe Delorme, bien sûr. Je voulais juste vous quitter sur ces images de la reine Elisabeth II et les unes, quand même. On n'a pas évoqué la presse française aujourd'hui, mais bien évidemment, on a découvert, on avait un petit peu de, comment dire, on était un peu dans l'expectative ce matin, à se dire comment on va titrer, comment peut-on titrer sur une telle disparition. C'est quand même assez périlleux comme exercice. Alors voilà, je vous en donne deux, je vous les soumets à votre analyse. Le Parisien, nous l'avons tant aimé, nous dit Le Parisien aujourd'hui en France. Moi, je trouve que c'est pas mal.
Ça fait référence au film.
Au film, absolument. Et puis l'autre, qui est un petit peu
plus... Tout un pan de l'histoire italienne, et elle, c'est tout un pan de l'histoire britannique.
Comme une saga, effectivement. Et puis Le Figaro, avec un titre un peu plus sobre, peut-être. L'adieu... Moi, j'aime bien toucher le papier, vous le montrez comme ça. L'adieu à la reine. Lequel recueille votre préférence, Philippe Delorme?
Moi, j'aimais bien la couverture de Libération.
Je ne l'ai pas, Libé.
Qui reprend
une
magnifique photo de Cécile Beaton, noir et blanc, où elle doit avoir une quarantaine d'années.
Vous étiez plus pour une classique aujourd'hui.
J'ai trouvé que la photo était vraiment... avec ce sous-titre qui était assez amusant, d'ailleurs, la peine d'Angleterre. Voilà, pas le sous-titre, mais la photo.
La photo était très belle. La photo était très belle. Moi, j'aurais dit tout simplement la reine courage, parce que c'est ça qu'elle symbolise.
La reine courage.
La reine courage. C'est ce discours initial à 14 ans.
La reine guerrière.
Non, la reine courage.
Oui. C'est... Moi, je pensais que vous diriez un truc un peu plus, comment dire, ésotérique ou mystique, puisque c'est un petit peu le dégagement que vous nous avez fait tout au long de l'après-midi, sur l'incarnation, le lien avec Dieu.
Oui.
La reine courage,
la reine perchée,
presque
trop
terre-à-terre
peut-être,
pour elle.
Non, mais...
Mais l'incarnation peut aussi être républicaine.
Oui, je pense qu'on peut.
Oui, non, mais sauf
pas forcément.
Pas là, quand même, pas dans cette figure-là.
Non, mais on peut trouver une transcendance.
Ça, c'est autre chose.
Laïque,
là, on entre dans la philosophie. Voilà. On est en train de parler d'une règle, on est en train de parler d'un royaume, et on est en train de parler d'un système. Et à quoi il correspond? Et on commente ça. Donc, pour moi, là, il n'est pas question d'une autre transcendance. Moi, je suis un impie. Mais il y a cette logique.
On va rester là parce que je sens que.
Mais c'est cette logique d'un socle fort et qu'elle a merveilleusement porté jusqu'au son dernier souffle.
Je vous souhaite à tous les trois un excellent week-end ainsi qu'à vous qui nous avez regardé cet après-midi. Vous pouvez passer un excellent week-end sur notre plateau et c'est tant mieux. Et dans un instant, c'est Patrice Boisfer qui assure la suite avec Punchline. À très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.